Salut et bienvenue sur Phoenix, l'échec mention très bien, le podcast qui démystifie la peur de l'échec. Je m'appelle Enzo Colucci et un mardi sur deux, je vais à la rencontre de personnes du quotidien pour qu'elles nous parlent d'un tournant de sa vie. Une ambiance à la cool, comme si on se prenait un verre en terrasse, pas de leçons de morale, chacun prend ce qu'il a à prendre. C'est juste des témoignages hyper authentiques sur un sujet qui nous touche toutes et tous. Alors j'espère que tu vas kiffer. Hello, hello, et bienvenue sur Phoenix, l'échec mention très bien, aujourd'hui en compagnie de Quentin.
Salut Enzo.
Salut Quentin, comment ça va?
Écoute, très bien, ravi d'être là,
Ravi que tu sois venu.
Bah, écoute.
On enregistre au studio, à la Casa Studio si je puis dire, c'est rare, souvent je me déplace, mais là t'es venu à la maison.
Exactement.
Ça fait plaisir, merci à toi.
Bah, écoute, avec grand plaisir.
Bon Quentin, on n'attend pas plus longtemps, tout le monde attend de savoir qui tu es.
Écoute, je vais me présenter assez rapidement, je m'appelle Quentin, j'ai bientôt 26 ans, je travaille à Paris, je suis ingénieur de formation, j'ai pas mal bougé entre la France et le Canada, cette passion qu'on a tous les deux pour ce beau pays, et suis repassé par Londres ensuite, voilà, avant de travailler depuis 2 ans dans le médical et dans la tech.
Médical et dans la tech, asti.
C'est ça.
C'est ça, trop bien. Trop cool, Quentin. Comme d'habitude, avant qu'on commence, j'aimerais bien que tu nous donnes ta vision, ta définition de ce que c'est que l'échec pour toi.
Écoute, l'échec, alors c'est pas forcément quelque chose que je connais très bien. Moi, je vais plutôt parler de résilience, ce que je trouve, qui me parle le plus au vu de mon expérience et de ce que j'ai pu vivre. Non, plutôt cette capacité à se remettre en question quand les situations sont un peu plus compliquées, qu'elles soient perso ou pro. Et vraiment arriver en fait à te connaître un petit peu plus de par ces épisodes un petit peu difficiles pour qu'à la sortie t'aies une expérience un petit peu plus claire sur qui tu es, comment tu réagis à toutes ces choses là voilà, je pense que c'est plutôt cet aspect de résilience que je trouve assez intéressant.
Ouais, de résilience, de prise de recul sur l'événement pour accentuer la connaissance de soi, du coup, tu disais.
C'est ça. Alors, ce qui prend du temps aussi, je pense que c'est quelque chose où, justement, quand tu es dans cette période un peu de tourmente, peu importe ce que c'est, finalement, je pense que chacun a ses petits combats internes et que l'herbe n'est pas du tout plus verte chez le voisin. Ça, c'est clairement un truc qu'il faut garder en tête.
Totalement.
Et donc, du coup, ces périodes un peu tumultueuses, bon, là, en période de Covid, je pense que c'est un peu compliqué pour tous. Chacun a ses petits challenges. Mais, ouais, cette vision où tu es un peu la tête dans le guidon, tu sais pas trop par où aller, comment réussir à avancer. Tu as cette impression aussi de tourner en rond. Ça, c'est un truc quand même qui revient beaucoup. Et finalement, à la sortie, quand les choses vont se dégager un petit peu, s'éclaircir, revoir cette période avec un petit peu de hauteur. Et justement, tu es arrivé à identifier ce qui a permis de s'en sortir de manière correcte. Voilà.
Bah écoute, on démarre assez fort. C'est cool ce que tu dis et je pense que les gens peuvent s'en inspirer parce qu'on passe tous une période très compliquée avec le Covid, mais il faut réussir à en tirer profit, comme tu dis, c'est totalement ça. Bon, bah on va rentrer dans le vif. Je vais introduire, tu vas comme dame un peu nous contextualiser comment tout ça peut-être est arrivé. Toi, c'est un peu particulier, je trouve ça hyper intéressant que tu viennes partager ça avec nous. Depuis là, les 2-3 minutes d'intro, je pense que les gens n'ont pas du tout senti.
J'espère.
Mais du coup, toi avant, Quentin, tu bégayais.
Écoute, ouais, j'ai bégayé.
Fort en plus, tu me disais.
Alors, j'ai bégayé, ça dépend vraiment des moments. C'était finalement des phases. Ça a commencé relativement jeune, vers 14-15 ans. Alors, pareil, très compliqué de mettre une date de début, finalement, à ce genre de choses où soit toi, t'en as pas conscience et les autres l'entendent, soit c'est plutôt l'inverse. Tu penses qu'ils entendent des choses, ou en tout cas qu'ils voient l'hésitation que tu peux avoir quand tu parles, alors que pas du tout. Donc, finalement, c'est un début assez bizarre. Je pense que aussi les causes de ça sont complètement variées. Il y en a plein pour qui ça peut être un traumatisme, un accident.
C'est un choc émotionnel qui peut déclencher ça, la majorité du temps.
Je pense qu'on ne sait même pas encore aujourd'hui ce qui peut le provoquer. Ça peut être un choc émotionnel, ça peut être un accident physique, ça peut être un traumatisme quelconque. Je pense vraiment que les causes sont complètement variées. Ça peut aussi être la résurgence de choses que tu as enfouies très jeune. Tu vois, où finalement même toi t'arrives pas à mettre des mots dessus, mais il s'avère qu'un jour tu vas te mettre avoir un peu plus de mal à t'exprimer. Donc ce début là pour moi, ouais, vers 14-15 ans, donc en plein collège, pas la meilleure saison ni le meilleur endroit pour commencer à bégayer, parce que du coup tu le prends un peu dans la figure avec tes relations aux autres et c'est assez immédiat, mais assez intéressant cette période du coup, pour en être un petit peu sorti aujourd'hui, même si ça revient et ça peut-être qu'on en reparlera. Je pense que t'en sors jamais vraiment complètement aussi. Donc c'est finalement arrivé à Ouais, arriver à s'en sortir dans les moments où tu as vraiment besoin, pour le coup, de parler un petit peu correctement.
Et comment tu t'en sors? Parce que là, du coup, tu dis que ça se déclenche vers le collège, c'est ça? Enfin, collège, 13-14 ans.
Pour moi, en tout cas. Ouais,
ouais, donc toi, bien sûr, on parle de toi. Quand ça se déclenche, comment tu l'as vécu, ça? Parce qu'on sait que c'est un âge, en plus, c'est un âge méchant. Enfin, l'âge collège, lycée, on évolue un petit peu, mais c'est pas évident. Du coup, comment toi, tu le vis à ce moment-là?
Écoute, à ce moment-là, c'est assez compliqué. Tu vois, j'avais un an d'avance à cette période-là, que j'ai toujours gardé. Donc finalement, tu as aussi cette petite distinction qui a sûrement joué aussi. Donc j'étais pas forcément déjà dans mon élément, comme j'aurais pu le souhaiter, aussi à l'aise sur plusieurs sujets. Et avoir ça en plus qui vient un petit peu couronner le tout, ça n'a pas arrangé cette équation. Et donc finalement, je pense que le vrai choc aussi, c'est d'en prendre conscience. Tu vois, je pense que c'est la première étape. C'est finalement dans toute cette première phase où finalement tu vas comprendre que toi tu commences à bégayer, donc toi tu en prends conscience, mais tu penses éventuellement que les autres ne l'entendent pas. Et tu vois, moi, pour moi, on en discutait aussi de cet élément qui a déclenché finalement cette prise de conscience-là. Moi, c'est ma sœur qui un jour a dit à ses potes que j'étais bègue. Et ce terme, déjà, outre le fait qu'il est très violent et qu'il est vraiment pas beau en soi, le fait que ma sœur puisse dire à ses copains qu'elle mette un mot sur ce les difficultés que j'avais du coup à m'exprimer à l'époque faisaient que je pouvais plutôt me cacher derrière éventuellement ça passe, ou ils le voient pas, ou ils n'en ont pas forcément conscience. Et donc à partir de ce moment-là, c'est plutôt comment je m'en sors plutôt que comment je le cache.
Intéressant déjà. Comme
donc la perspective change.
Ouais, totalement.
Les gens le savent, t'es plus là, ils se disent bon, peut-être que je vais le cacher, ça va passer. Non.
Là, t'assumes et tu dis ok, vas-y.
T'assumes, alors déjà, tu rentres un grand coup dans ta sœur parce qu'elle t'a un peu trahi et ça c'est quand même assez violent. Mais du coup, merci, tu vois, finalement, avec quelques années de recul, c'est finalement, si elle n'avait pas fait ça, si elle m'avait pas balancé, entre guillemets, dos au mur complètement,
ouais.
J'en serais peut-être pas sorti comme j'ai pu le faire. Donc non, et tu vois, et on parlait de résilience, je pense que c'est typiquement sur ce genre de moment-là où finalement, quand t'es dedans, c'est pas drôle, c'est un tunnel, tu vois pas le bout du truc. Tu sais pas quand est-ce que tu vas en sortir, un peu comme ce qu'on vit en ce moment. Voilà, on est un peu dans le dur. Quand tu n'as pas cette date de sortie où tu sais que tu vas passer à autre chose, je trouve ça compliqué d'avoir une résilience, de se dire tous les jours que ça vaut la peine de se battre et de sortir de ça. Donc moi, ça a été vraiment le premier élément qui m'a fait prendre conscience qu'il fallait que je m'en sorte. Ensuite, j'ai un peu bricolé.
J'allais dire, comment après tu t'en es sorti en fait? Qu'est-ce que tu as mis en place pour te sortir de cette situation justement?
Alors, il y a plusieurs choses. Il y a déjà comment ça se manifestait, tu vois. Je pense qu'aussi, ça, c'était le premier aspect. C'est en classe, donc tout ce qui est présentation, l'enfer. Tu as 30 personnes en face de toi, pas toutes bienveillantes, comme tu en as parlé. Ça va vite, ça fuse vite. Les vannes qui font parfois un petit peu mal. Donc, tu es un peu toujours dans ces moments de déstabilisation complet. En fait, les gens ne sont pas là vraiment pour t'écouter. Et puis même toi, tu n'as qu'une envie, c'est que la présentation se termine. Le truc doit durer 20 minutes. Si tu pouvais la plier en 3, tu le ferais avec grand, grand plaisir. Et donc là, finalement, bon, tu sais que tu as 20 minutes qu'il faut gérer au mieux possible. J'aime bien cette expression de sauver les meubles. Finalement, c'est exactement ça. Donc ça, quand tu passes des coups de fil à des potes aussi. Tu vois, on était encore à cette époque du téléphone fixe, quand ça existait, quand les personnes avaient encore ça. Moi, j'étais très pote avec un gars qui avait 4 frères et sœurs. Et si je tombais pas sur lui direct, souvent je bégayais. Donc si tu veux, la proba de tomber sur lui d'emblée était un peu compliqué. Donc plusieurs fois, quand le téléphone sonne, tu dis bon, ça va être à moi, il faut que j'y aille. Et en fait, ce moment où tu dois commencer à parler, c'est souvent là que tu vas bégayer. La malchance que j'ai aussi, c'est que je m'appelle Quentin. Quentin, c'est un truc qui est compliqué à prononcer. En fait, tu as certaines consonnes et certaines syllabes qui vont être plus dures. Et souvent, d'ailleurs, tu bloques sur les mêmes. Tu sais comment tu t'appelles. Normalement, c'est pas un truc qui va te poser problème. Et si tu veux, quand tu mets 10 secondes à dire que tu t'appelles Quentin ou pour t'identifier, quand c'est ton pote, c'est pas grave. Quand c'est avec une fille, c'est un peu plus gênant. Et elle se dit, bon, lui, il est un peu bizarre quand même, ça va être compliqué. Donc déjà, tu commences pas sur le meilleur pied.
Surtout que, pour la petite histoire, ce que tu me disais, c'est que ce pote-là que t'appelais, quand tu disais, il a 4 frères et sœurs, il a surtout que 4 des sœurs,
c'est
en
ça,
fait.
Exactement.
Donc là, tu parlais de
double peine.
C'est ça.
Double peine. Voilà. Et donc finalement, c'est plein de petites manifestations comme ça, que ce soit des personnes connues ou pas. Finalement, c'est assez marrant de voir que chacun va réagir un petit peu différemment. Et presque quand tu connais pas quelqu'un, t'as un peu moins d'attente de sa part aussi, donc finalement tu vas peut-être être un petit peu plus en confiance. Et je pense que cette notion de zone de confort, de confiance, c'est indispensable pour arriver à être dans les meilleures conditions possibles pour parler correctement. Donc le but pour t'en sortir, ça va être finalement de te remettre dans des zones où tu vas pouvoir un peu anticiper ce qui va se passer, maîtriser un peu le temps, savoir quand la personne, comment est-ce qu'elle va réagir quand tu vas lui dire un truc ou pas. Et donc là, on en revient finalement aux méthodes ou aux petites choses qui ont permis de m'en sortir, ou en tout cas de masquer ça au départ. Le premier truc, je pense que c'est vraiment l'humour. C'est que finalement, tu comprends vite que quelqu'un qui rigole n'attend pas. Donc finalement, si tu es en mesure de faire la petite vanne qui va bien au bon moment, la personne qui rigole, toi, elle te laisse le temps de changer de phrase, de commencer à penser à ce que tu vas dire après. Donc t'enlèves un peu la partie spontanéité que tu peux avoir dans un échange, mais t'es pas là pour être spontané, t'es là pour sortir les mots correctement. Donc ça, c'est un assez bon outil. L'improvisation, qui vient aussi, alors qui va pas dans le sens de la zone de confort, mais qui finalement va t'aider dans la mesure où tu vois au moment où tu parles comment les choses vont pouvoir sortir correctement. Et ça, c'est un truc que j'ai trouvé assez intéressant. Toi, typiquement, quand il y avait des présentations, j'arrivais jamais avec des feuilles de notes remplies. C'est impossible. Parce que tu sais pas la veille quand tu prépares, parce que souvent c'est de la veille pour le lendemain, excusez-moi. Tu sais pas quand tu prépares ça, si le lendemain tu seras en mesure de dire les mots dans le même ordre et de la même manière
que la veille chez toi.
Que la veille chez toi.
Okay.
Donc finalement, pour éviter encore cette frustration que tu pourrais avoir le lendemain quand tu as ta feuille devant toi, 30 personnes derrière qui t'écoutent, il faut vraiment être en mesure de dire ok, bon, je vais mettre 3 idées sur un bout de papier et je vais voir comment est-ce qu'elles vont sortir. Donc tu te transformes en une espèce de Miss Météo, alors qu'il fait rire tout le monde, où finalement tu es un peu là à gesticuler, à essayer de trouver quelques repères fixes aussi dans ton audience, peut-être 2 potes que tu peux avoir à qui tu as envie de raconter un truc ou de parler. Et donc finalement, toutes ces petites choses qui vont te permettre de te recentrer sur ce que tu dis et comment tu le dis, c'est indispensable pour arriver à avoir un débit qui soit le plus fluide possible. Ça ne t'empêchera pas de buter. C'est compliqué d'ailleurs, en plus, quand tu as la pression derrière, que tu te rends compte que tu commences à bégayer. Alors là, c'est la spirale infernale. C'est que derrière, t'as le cœur qui se met à battre, tu respires moins bien. Donc ça va pas beaucoup t'aider. Donc finalement, voilà, il faut quand même avoir ces quelques petits repères-là.
T'étais un pro du synonyme aussi, tu me disais qu'il fallait trouver des parades aussi à ce niveau-là.
C'est que du synonyme, ouais, ou alors tu fais semblant de chercher un mot.
Okay.
Ça, c'est la grande classique. C'est le grand classique, c'est finalement de dire t'es au milieu de ta phrase, tu te rends compte que tu as buté sur le mot qui arrive, tu fais semblant de le chercher.
Alors genre, je l'ai sur le bout de la
tu
langue.
Tu le connais,
ouais.
Tu sais ce que tu veux dire, mais le truc sort pas.
Ah,
donc au lieu de répéter 12 fois la première syllabe et de faire un petit teaser comme ça, un petit peu long, parce que les mecs en face trouvent ça d'ailleurs assez marrant, toi, c'est l'enfer pour toi, tu vas soit trouver un synonyme, soit faire une fausse pause. Donc finalement aussi, tu as l'usage du silence. Ça, c'est un truc que je trouve assez intéressant.
D'où l'humour, je te disais avant aussi.
L'humour aussi,
ça.
Exactement.
Ouais, totalement, c'est relié.
Mais le silence qui fera toujours peur. Tu vois, ça, c'est un truc aussi qui peut mettre mal à l'aise. J'allais dire un bègue, mais j'aime tellement pas ce mot que je vais dire quelqu'un qui bégaye. Ce silence-là, même moi aujourd'hui, parce qu'il m'arrive de toujours bégayer, tu vois, j'ai pu faire des longs trajets en bagnole avec des personnes qui parlent très peu et qui sont pas tes potes. C'est-à-dire, ils sont pas là en train de dormir à côté de toi et toi, t'es en train de conduire, mais des personnes que tu connais pas tellement ou avec qui tu bosses ou ce genre de choses. Et les gens qui parlent peu, le silence est très pesant. Donc tu sais pas, est-ce que je parle, est-ce que je parle pas, mais si je parle, je vais bégayer. Enfin, ouais, donc c'est un petit peu l'enfer. Mais arriver à en faire un petit peu ton ami aussi. La chance que tu peux aussi avoir, c'est de prendre conscience que un silence au bon moment donne un peu de présence à ce que tu vas dire aussi. Donc tu peux aussi jouer sur l'importance que tu donnes avec ça. Ça permet de re-respirer, reprendre un rythme et du coup de fluidifier un petit peu l'échange. Non, je pense que c'est ça.
T'avais les langues aussi, tu me parlais aussi que tu t'étais beaucoup... t'es très fort en langue du coup encore aujourd'hui, et que ça avait été un peu pas un échappatoire du coup, mais tu t'étais réfugié un peu là-dedans, t'excellais même là-dedans, parce que tu m'expliquais, enfin c'est génial ce que tu me disais sur ça.
Ce qui est marrant en fait avec les langues, c'est que en tant que français, t'es pas obligé de bien parler anglais. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que ton bégaiement quand tu parleras anglais pourra passer sur le compte d'un « je cherche mes mots », je sais pas ce que je veux dire, ou j'ai pas un bon accent, plutôt que ah bah le mec bégaye. Donc finalement, c'est langue étrangère, que ce soit quelle qu'elle soit, pour moi c'était allemand, anglais et un petit peu d'espagnol, c'était vraiment tes alliés, dans la mesure où voilà, tu peux encore faire illusion que, et cette partie de justement faire illusion ou vraiment arriver à le combattre, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Et je pense qu'à l'inverse, tu arrives à en sortir du bégaiement le jour où tu te fais même à toi-même la propre illusion que tu ne bégayes plus. parce que tu fais usage un petit peu de toutes ces petites méthodes. Mais je pense que chacun a les siennes. Tu vois, je ne suis jamais allé voir un orthophoniste ou ce genre de choses. Et je pense que chacun a son propre rapport à ça. Et ceux qui bégayent et qui écoutent ce podcast ont sûrement plein d'autres idées ou alors sont un peu en questionnement sur comment est-ce qu'ils peuvent s'en sortir. Donc voilà, je pense qu'il ne faut pas du tout hésiter à vraiment arriver à essayer de trouver les petites parades qui, aussi futiles puissent être, vont arriver à fluidifier un petit peu tout ça.
C'est hyper intéressant parce que du coup, en fait, tout ça, ça part d'un gain de confiance en soi, en fait, énorme. C'est comme ça que tu arrives en fait à faire partir. Donc c'est génial parce que c'est la confiance en soi, c'est quelque chose qu'on recherche tous au quotidien, qu'on bégaye ou pas. Et donc c'est ouf parce que toi, du coup, tu développes cette aptitude, si je puis dire, bah depuis que tu as 14 piges, en fait.
Alors, tu le développes sans vraiment le savoir. Je pense que c'est vraiment aussi quelque chose dont tu prends conscience quand t'en sors.
Bien sûr.
Tu vois, moi, le vrai coup, le vrai truc qui m'a fait réagir, c'est aussi de comprendre qu'un bébé ne bégaye pas. Ce que j'entends par là, c'est de dire quand t'apprends à parler, tu ne bégayeras pas. Donc toi, t'as 15 ans, ou 20 ans, ou 30 ans pour les personnes à qui ça peut arriver après. Il faut arriver à accepter le fait que tu parles moins bien au jour J que lorsque tu as commencé à parler et à apprendre tout ça. Et ça, c'est quand même un joli coup sur le casque, parce que quand tu te prends ça en pleine tête, en te disant « bon, j'ai l'impression d'avoir un peu avancé dans la vie, et là, je me retrouve à moins bien m'exprimer qu'avant », c'est un peu dur. Et donc, finalement, je pense qu'il faut être assez humble par rapport à ça. Il faut dire « ok, bon, moi, c'est ça. Ça me pose problème aujourd'hui, pour des raisons, on ne sait pas forcément ce que c'est. » Mais il n'y a que cette prise de conscience-là qui va te permettre ensuite, justement, de tout mettre en œuvre pour arriver à le dépasser. Ça peut prendre un an. Tu vois, moi, ça m'a pris 4-5 ans. Et d'ailleurs, c'est pas parti au lycée, c'est parti quand j'ai changé d'endroit. Et ça, je pense que c'est aussi le fait de reset et de repartir à zéro, où finalement tu changes les gens avec qui t'es, qui du coup ne te connaissent pas. C'est-à-dire, en fait, quand tu vas les rencontrer pour la première fois, ils savent pas qui t'es, ce que t'as fait avant. Et du coup, ils savent pas que t'as ce problème d'expression et que tu pouvais bégayer auparavant. Et donc, ça te donne une chance de repartir avec une feuille blanche et de te dire, ok, bon. Bah, s'ils ne savent pas que je bégaye, il n'y a pas de raison que je bégaye et que je continue sur cette spirale un petit peu plus compliquée. Et ça, c'est des vraies chances aussi, ces petits resets, de te dire, ok, bah, je vais voir maintenant si j'arrive en partant de scratch à m'exprimer un petit peu plus facilement.
C'est comme ça que ça s'est passé du coup, genre quand t'as, donc c'est après le lycée où t'es,
ouais, t'es, quand t'es j'ai débarqué en prépa, ça s'est vachement atténué.
Ok.
Ça et revient.
Ça peut revenir, ouais.
Ah, mais ça revient. Alors, ouais, soit... Même là, je pourrais pas être clair sur quand est-ce que ça va revenir. Soit ouais, c'est une personne qui t'impressionne. Ça, c'est toujours compliqué. Je sais pas, tu rencontres un super entrepreneur qui a monté 15 boîtes ou n'importe qui. En fait, une personne qui va te fasciner. Ce rapport, pas de force, mais ce petit déséquilibre que tu peux avoir avec justement ce manque de confiance en toi et lui, la phase dans sa vie où il en est, où il est, font que... tu vas être un petit peu plus stressé, un petit peu plus d'angoisse. Et donc, tout ça va se traduire par un bégaiement qui sera peut-être un petit peu plus présent. Parfois, c'est des mots. T'as des mots sur lesquels tu vas toujours un petit peu bégayer, des consonnes un petit peu spéciales, des rythmes. Donc ça, c'est vraiment des choses. Je pense que ça part vraiment jamais complètement. Parfois, quand tu picoles, du coup, tu peux un peu moins prévoir ce que tu vas raconter. Et donc, du coup, ouais, c'est plein de phases ou plein de périodes qui vont faire que ça va un petit peu ressurgir à certains moments. Ce qui est très désagréable quand toi, t'es en train de parler, parce que tu te rends compte, putain, je pensais être enfin sorti de ce truc-là, et en fait, je le reprends en pleine poire. Donc ça, c'est un peu violent, ça reste aussi sur ces aspects-là. Mais c'est... Donc je pense que c'est un challenge un petit peu permanent, et c'est plutôt arriver à gérer sur le long terme ton rapport à ça. Je pense qu'il sera toujours un petit peu présent, ça, il faut l'accepter. Maintenant, c'est voilà. Et aussi peut-être comprendre, et je pense que c'est un bon indicateur, que ça peut te révéler lorsque t'es pas bien avec quelqu'un, ou que t'es un peu stressé, ou voilà. Donc c'est aussi un peut-être un peu un baromètre de comment tu te ressens inconsciemment avec une personne en particulier. Dernier aspect, je pense que c'est pas forcément, et là j'y repense en t'en parlant, c'est pas forcément la taille de l'audience que t'as en face de toi qui va faire que tu bégayeras plus ou moins. Il m'est arrivé de parler devant 300 personnes, c'est pas là que j'ai le plus bégayé. Parce que justement, dans cette audience-là, tu vas prendre une ou deux personnes à qui tu vas vraiment parler, où t'es là finalement pour délivrer un message, et peu importe ce que les gens pensent. Tu vois, ça, je pense que c'est aussi un autre facteur, c'est accepter que voilà, quand tu te fiches un peu de ce que les autres peuvent penser, de ce que tu fais ou de ce que tu dis, Il y a peut-être que deux personnes qui vont vraiment en retirer quelque chose. Et tu vois, c'est un peu aussi pour ça que je fais ce podcast aujourd'hui. C'est peut-être, voilà, pour les deux, trois personnes qui bégayent, leur dire toujours moyen de s'en sortir. Et finalement, c'est en regardant sur ces périodes-là qu'on prend peut-être une confiance, du coup, un petit peu accrue, ce que tu disais assez justement avant.
J'avais du coup une question un peu pour la fin de cette interview. C'était concrètement, toi, qu'est-ce que tu en retiens? Quelles sont les leçons que tu retiens de cette période compliquée de ta vie? Et dans la foulée, qu'est-ce que tu dirais à ton toi de l'époque, justement, qui était en pleine période de doute, qui avait pas confiance en lui, justement?
Ouais, je pense que cette notion de confiance, c'est vraiment l'aspect clé. Moi, ça s'est manifesté par ce bégaiement. Finalement, d'ailleurs, tu prends un peu d'âge, voilà, tu prends un peu d'expérience par rapport à ça. Je pense qu'il faut vraiment arriver à se dire, peu importe ce qu'on vit, il y a toujours un moment donné où ça va se retourner, ça va un peu changer, les choses vont... peut-être une chose en particulier qui va venir aider ou qui va faire un petit peu oublier tout ça quand tu changes d'endroit ou quand tu changes d'espace. Donc je pense que cette confiance-là, c'est vraiment un aspect clé. Moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est aussi quelqu'un qui m'a dit, mais éclate-toi dans ce que tu fais. C'est-à-dire, sois vraiment heureux, parce que c'est aussi un bon curseur de dire, quand tu es heureux de faire quelque chose, tu n'as pas de raison de... pas forcément de bégayer, mais de remettre en question ce que tu fais. Tu es inconsciemment confortable et t'es dans ta zone de confort aussi. Donc c'est finalement s'écouter un peu et se faire un petit peu confiance sur ce qu'on a vraiment envie de faire. Et à l'inverse, je pense que c'est un bon baromètre pour les signes que ça peut te donner aussi. Voilà, quand tu bégayes, t'es peut-être pas au bon endroit, t'es peut-être pas en phase avec ce que t'as envie de faire. Bon, c'est peut-être aussi un signe pour dire change ou fais autre chose ou évolue. Mais n'aie pas peur d'apporter ces petits changements qui vont peut-être pouvoir t'aider.
Ouais, ne reste pas statique, quoi.
C'est ça.
Trop stylé. Bah écoute, Quentin, merci pour ce beau témoignage sur ces années, du coup. Ouais, c'est vrai qu'aujourd'hui, on le sent pas, quoi. C'est ouf. Bon, alors peut-être que je t'impressionne pas.
Info ou intox.
Je suis un peu déçu, du coup. Je pensais t'impressionner. J'aurais aimé que tu bégayes un peu. Non, je déconne.
Non, j'aurais pu faire un effort.
Je rigole.
Ça, j'aurais pu faire un effort.
Non, mais trop cool. Merci beaucoup. C'est trop stylé. On va passer à la suite, comme d'hab, aux questions pour la mention, parce que j'en ai pas fini avec toi, Quentin.
Question pour la mention.
La première question, Quentin, comme à tout le monde, c'est quoi pour toi les trois plus grandes vertus à avoir dans la vie?
Écoute, moi je vais revenir au début du podcast. Je pense que la résilience, ça vient en numéro un. Vraiment, pour finalement ce que ça t'apprend à toi aussi. C'est voilà, savoir pouvoir un petit peu encaisser les coups, serrer un peu les dents pendant une certaine période en se disant, voilà, quand j'en sortirai, j'aurai une confiance un petit peu accrue. Donc c'est pas du tout agréable quand t'es dedans. Mais se dire, voilà, accepter ces phases pour peut-être se recentrer un petit peu sur soi et se construire un petit peu tout seul. Parfois, ça fait du bien. Donc, on a tout souvent d'aller se prendre un bouquin et de partir une semaine au vert sans avoir 14 potes autour. Ça fait du bien. La seconde, je pense que c'est la curiosité. Donc, finalement, c'est s'ouvrir à tout, à plein de choses, à plein de gens. Pas du tout avoir peur d'aller explorer différentes pistes. Et justement, ensuite, de découvrir un petit peu qui on est, où est-ce qu'on est bien, tu vois. Et on revient un peu dans cet aspect aussi de zone de confort que, à l'inverse, je pense qu'il faut être en mesure de savoir dépasser dans certains cas, mais savoir là où on est bien, ou les deux, trois piliers qui font que le jour où ça va mal, on sait que avec ces personnes-là, ou dans ces zones-là, ou dans ce type d'activité, c'est là où on sera finalement assez bien pour sortir de ça. Et la dernière, moi, je pense à l'audace. J'en manque un petit peu, j'aimerais bien en avoir un petit peu plus, mais les quelques fois dans ma vie où j'ai un peu oublié soit ce que pouvaient penser les autres, ou finalement où je me suis autorisé à oser, j'ai notamment cet épisode à Montréal où je suis allé voir un concert de Ibrahim Malouf, et à la fin de ce magnifique concert, il y avait 4 Libanais autour de la scène, je suis allé les voir, je leur ai dit que j'adorais leur pays parce que j'avais passé 2 mois à travailler sur un barrage près de Beyrouth en 2015. Et ils étaient tellement heureux que j'aille vers eux que j'ai passé le reste de la soirée avec Ibrahim et sa famille dans leur loge.
Putain, folie.
Comme quoi, ça vaut la peine.
Grave. Ouais, c'est des belles vertus. Tu termines avec une sacrée aussi, l'audace. Je pense qu'il faut oser dans la vie. Il faut oser. Il y avait une très belle phrase que je cite beaucoup et que je me mets un peu en mantra. C'était l'épisode 9, Sharon Sofer. J'adore cette phrase qui est la fameuse « Et au pire quoi ?»
Ouais, c'est bien.
Et au pire quoi? Qu'est-ce qu'on en a à foutre? Tu parlais tout à l'heure du regard des autres, déjà le regard des autres on s'en fout. C'est au vrai. Pire des cas, la finalité de ton acte, si elle tue personne et surtout pas toi en premier, qu'est-ce qu'on en a à foutre, en fait.
Exactement.
Donc, osons.
Je note.
Belle. Je note. Bah, des belles vertus, en tout cas. Merci pour cette réponse, Quentin. La prochaine, est-ce que tu as, toi, je sais que tu es un grand lecteur, est-ce que tu as un bouquin que tu as lu dernièrement, que tu as kiffé, ou une série, un film, un podcast, comme je dis toujours aussi?
Écoute, en bouquin que j'ai lu dernièrement, il y a Laurent Gounel, que tu m'avais recommandé, que j'ai lu avec grand plaisir. Alors, il y en a deux. Il y a Les dieux voyagent toujours incognito. Et le premier dont tu vas me rappeler le titre, que j'ai plus en tête.
Le jour où j'ai appris à vivre.
Magnifique. Qui est un petit peu plus court, mais qui est vraiment très très sympa. Dans un autre esprit, et j'y pense, je suis un fou de tennis, et l'autobiographie d'Agassi, The Open, ou comment on peut passer 20 ans de carrière avec un sport que l'on déteste au plus profond de soi-même. Voilà, je pense que c'est une super histoire aussi. Et en termes de podcast, alors moi, il y en a un que j'écoute assez souvent, outre Phoenix, bien entendu, c'est celui de Mathieu Stéphanie, Génération Do It Yourself, qui permet de se mettre un petit coup de pied aux fesses chaque semaine avec des gens qui se bougent un petit peu, et ça fait du bien. Donc, sur plein de sujets assez variés, ce que je trouve assez sympa. Et le film, on parlait de bégaiement, je pense que Le discours d'un roi s'impose. Et vous me direz la fin de ce film, parce que j'ai jamais pu aller jusqu'au bout. Moi, je trouve ça trop violent, en fait, quand t'as bégayé très longtemps, et quand tu vois quelqu'un bégayer, t'as une empathie assez naturelle qui va se développer. Donc moi, j'ai jamais pu aller à la fin de ce film, mais en tout cas, jusqu'au premier deux tiers, c'est pas mal du tout.
Eh ben, stylé, des belles suggestions. J'espère que les gens ont noté, on essaiera de remettre ça aussi en description. Mais ouais, Mathieu Stéphanie, bah... c'est le taulier, quoi. C'est le daron, c'est le tonton, c'est le parrain, c'est qui tu veux. Forcément, le gars, il est solide, hein, Mathieu.
Très sympa.
Très belle. Non, bah cool. Il y a une petite dernière question, Quentin. C'est quoi ton prochain objectif?
Écoute, mon prochain objectif, je pense que c'est de me trouver un peu professionnellement. Je suis pas mal en période de questionnement à ce niveau-là. Pour rien te cacher, j'ai un peu identifié les fonds d'investissement. Rien de très classique là-dedans, mais j'aimerais bien aller voir un petit peu ce qui se fait de l'autre côté de la barrière.
Bah, voilà. Trop cool. Bah, c'est tout le mal qu'on te souhaite. Ceux qui nous écoutent, vous avez une belle personne en face à aller chercher. Et jamais. Bon, peut-être que d'ici là, tu auras trouvé du taf et je te le souhaite.
Merci beaucoup. J'espère aussi.
Trop cool. Le petit rituel de fin, Quentin, on n'y déroge pas. Est-ce que tu peux me résumer ce qu'on s'est dit depuis bientôt une demi-heure en une phrase?
Une phrase pour tout. Se connaître pour se faire confiance. Je pense que c'est pas mal.
Bim, on lâche le mic. Connaître pour se faire confiance. Magnifique. Merci beaucoup, Quentin.
Merci
pour
à toi,
ce temps. Merci d'être venu. C'était trop cool. Ça va être encore un super bel épisode. Les gens vont bien kiffer. Faites tourner à toutes les personnes autour de vous qui ont eu peut-être un bégaiement à un moment donné dans leur vie. J'essaie de pas dire bec comme tu m'as dit, parce que
c'est terrible.
Je sais, il faudrait qu'on trouve un nom, un synonyme joli.
Une petite parade, exactement.
Je sais pas, on pourrait appeler ça des rappeurs, non? Parce que yo, tu vois, peut-être que ça pourrait.
Ça peut être pas mal. Avec un petit accent québécois derrière.
Ah ouais, si, ce serait parfait.
Chris.
Ah, Chris. Bon, et ben rentre bien, Quentin, et puis on se dit à bientôt.
À très vite, merci Enzo.
Salut.
Ciao.
Merci à toi d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère sincèrement que l'épisode t'a plu et qu'il a pu t'apporter quelque chose de positif. N'hésite surtout pas à parler du podcast autour de toi, parce que clairement le bouche-oreille, c'est de loin notre plus grande force. Abonne-toi à la page Instagram, Phoenix Podcast, ou à la newsletter sur le site phoenixpodcast.fr pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Tu peux également me contacter très facilement sur LinkedIn à Enzo Colucci. Et enfin, si tu l'as pas déjà fait, si tu peux juste prendre une minute pour me mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast, ça m'aide vraiment beaucoup. Je te dis à très vite pour encore plus de ratés et encore plus de kiff. Thank you.